Et nous allons donner la parole tout de suite à Pierre Rabou, qui est le post-doctorant du projet, pour une communication intitulée « Punk Maquis, la violence comme horizon social ». Voilà, tu as la parole, Pierre.
Donc voilà, moi, juste pour aussi dire un peu d'où je viens, je viens donc des sciences politiques, mais j'ai fait avec une optique plutôt histoire, donc aussi travailler sur les archives, et donc pour aujourd'hui, je vais surtout m'intéresser aux textes à nouveau. Là aussi, donc, j'ai repris aussi les images de fanzines issues de, que j'ai trouvées sur le site de la Fanzinothèque, où on voit de nouveau ce qu'on disait avant, cette image militaire qui est toujours présente. Donc ici, c'est issu de Molotov et Confetti en 84, et qui marque, à mon avis, bien cette volonté de la scène punk de montrer, de mettre en tout cas en image et en texte, un conflit. À l'instar des différentes scènes issues des autres pays, le punk en France, dès ses débuts, met en avant différentes violences symboliques, avec des revendications de la rupture, notamment en musique, c'était ce qui était mentionné par Rudeline, mais aussi les insultes, et aussi en partie des violences physiques, avec le pogo, les mutilations et tout ça. Les paroles des chansons jouent également sur ce registre de la violence, mais que signifie vraiment ce qualificatif de violent ? Donc pour cette présentation, moi je vais me baser sur une notion de la violence qui est politique, considérant que cette notion, qui est constamment objet d'usage médiatique et politique, pour se comprendre, il faut la resituer dans l'interaction entre pratiques culturelles et situations sociales et politiques. Donc pour donner vite un plan, donc je vais commencer par revenir par voilà, cette, comment moi je comprends la violence pour cette présentation aujourd'hui. Et ensuite, je vais explorer le sens historique de cette violence à travers deux pistes interprétatives. La première, c'est la question de la violence comme conflit et peut-être sous-conflit. En effet, la violence, ça a comme une forte dimension illégitime. Ça renvoie à une forme d'opposition lorsque le conflit en tant que tel est rendu impossible par la situation politique. Le violent est celui qui fait un usage illégitime de la force, et ce qualificatif, il sert vraiment à déprécier les actions d'un groupe opposé. Donc l'émergence du punk en France, à mon avis, elle peut aussi se comprendre du fait qu'elle est contemporaine d'un essoufflement du conflit social à ce moment-là. Donc je vais me concentrer sur les premières années du punk entre 76 et 85 à peu près. Ensuite, la deuxième piste que j'ai nommée ici « Douleur sur la France », c'est de penser qu'il y a une analogie entre situation de crise et la mise en musique de cette crise par les punks. La France est en effet fortement touchée par la crise à ce moment-là, par la récession économique, avec les deux chocs pétroliers. Et donc je vais me poser la question, est-ce que la violence de la scène punk, vu que c'était la question qui était posée par Philippe avant, de savoir quelle était cette violence de la fin des années 70, et est-ce qu'elle peut être liée justement à cette France en crise ? Donc cette présentation, elle va se concentrer sur les premières années, ça j'ai déjà dit, et sur des productions de certains groupes punk, Metal Urbain, Berrurier Noir, Caméra Silence, que j'ai choisi pour leur usage littéral et récurrent de la violence dans leurs textes. Et ma présentation, elle va en quelque sorte suivre un itinéraire en différents textes de chansons qui vont permettre vraiment de se rendre compte à quel point dans les textes punk, il y a vraiment une richesse et différentes facettes dans la façon de traiter de cette thématique de la violence. Alors, pour définir rapidement la violence, donc, moi je pars d'une conception politique de cette violence, reprenant la définition qu'en donne Niebuhr. Donc, pour dire rapidement sa définition, c'est des actes dont l'objet, le choix des cibles ou des victimes, les circonstances, l'exécution et ou les effets acquièrent une signification politique, c'est-à-dire tendant à modifier le comportement d'autrui dans une situation de marchandage qui a des conséquences sur le système social. Donc pour dire rapidement, même si là, effectivement, c'est un peu tronqué parce que c'est une définition qui est mise en place pour plutôt analyser des éléments liés au terrorisme ou vraiment à la violence physique, moi, j'aborde comme ça de façon plus générale, mais je garde une définition large comme ce qui a été dit ce matin dans la première intervention, c'est-à-dire à la fois une violence physique et symbolique, donc évidemment, vu que je vais parler des textes, ici, ce sera plutôt la violence symbolique, mais ce qui me semblait intéressant avec la définition de Niebuhr, c'est qu'on a vraiment une violence qui est inscrite dans les relations sociales. Il s'agit vraiment de sortir de l'approche éthique et ahistorique qui prévaut souvent quand on aborde la violence et qui l'aborde toujours dans une condamnation a priori. La violence, elle constitue un acte social de lutte qui a une forte dimension performative, et c'est aussi ça qui donne le sens d'analyser les textes, vu que le fait simplement de nommer la violence a une importance, d'où sa pertinence dans les textes. Et encore, il faut dire que Philippe Bro distingue trois types de violences, violence d'État, violence protestataire et violence intersociale. Et à mon avis, plutôt que d'attribuer un type de violence à la scène punk, c'est plus intéressant de comprendre comment elle est en interaction entre ces différents types de violences. Parce que violent, la scène punk semble bien l'être, comme on l'a vu depuis le début de la journée. On pourrait bien sûr étudier les traces physiques et convoquer, comme l'a fait juste avant Nicolas, voilà, cette expérience des concerts où il y a une violence omniprésente. Plus largement, la scène punk utilise des pratiques sociales violentes, au moins symboliquement, avec les injures adressées aux autres, mais aussi le but d'exacerber une rupture entre un « nous » et un « eux », c'est aussi ce qui a été dit dans la présentation d'avant. Au sein de la scène punk, le son est lui-même perçu comme violent. On pourrait ainsi évoquer des éléments techniques, comme la rapidité d'exécution à la guitare, ou encore la façon de chanter à la manière du cri, donc il y a aussi de la musique. Et cette analogie entre un son qui serait lui-même violent, il est fait par des groupes punk eux-mêmes. Alors ici, je vais citer une chanson de Camera Silence, « Le bal des Vauriens », qui dit, qui sort en 84. Voilà la citation de la chanson, c'est « Ce soir, assez perdu de temps, ça frappe, ça cogne dans mes tympans, allez en piste, ils sont arrivés, et leur musique va exploser. » Donc on voit vraiment ce son qui est thématisé comme violent. Mais pour cette présentation, donc moi je vais vraiment me cantonner au texte. Donc le thème de la violence, il vient d'abord dans les textes pour exprimer une posture conflictuelle. J'entends ici le terme de conflit au sens poétique, c'est-à-dire dans la capacité à construire une opposition entre un nous et un eux, à nouveau, et la capacité à définir des objets comme enjeux de lutte, ou une situation comme une situation qui serait une situation de lutte. La violence s'adresse alors aux adversaires, et Metal Urbain, c'est vraiment, à mon avis, un des premiers groupes punk qui va utiliser ce genre de référence, donc ici je vais vous mettre un petit extrait. Désolé, je coupe, mais... donc là, on voit avec les textes où il y a une attaque de la figure institutionnelle par excellence, donc celle du président, tu braques le président, explose sa gueule, rouge, rouge, rouge et noir. Donc il est assez intéressant de noter que... Et après, poupée dégonflée. Et donc c'est intéressant de noter qu'à l'époque, c'est vraiment une des rares formations qui a vraiment ce registre-là, si on prend les textes des autres formations du tout début, en 77, que ce soit Liebenstein... Asphalt Jungle ou Stinky Toys, il n'y a vraiment pas du tout cette thématique qui est présente. On pourrait peut-être faire une légère exception avec Star Shooter. Mais on la retrouve de façon beaucoup plus récurrente à partir de 1980, ce qui montre qu'il y a vraiment un changement de registre textuel dans la scène punk en France, qui va vraiment mettre davantage en avant la conflictualité. Alors, on a déjà eu des exemples juste avant avec la souris déglinguée. Mais le groupe phare aussi, vraiment de ce moment-là, c'est bien sûr Berrurier Noir. On peut citer notamment des chansons qui, dès leur titre, mettent en avant cette conflictualité comme, voilà, comme baston. Donc, je ne vais pas passer ici, mais que je passerai un extrait après. Donc, juste reprendre les textes maintenant. Le refrain, c'est « Tant qu'il y aura des prisons, les kids se battront. Tant qu'il y aura des prisons, il y aura des bastons. » Et on retrouve la même narration guerrière chez Camera Silence dans le titre « Classe criminelle » qui sort en 84 aussi. Donc, je vais vous mettre aussi un extrait. Donc je vais aussi sauter le début parce que c'est une chanson en deux parties avec une première instrumentale.
Thank you.
Donc là, il y a vraiment le terme de violence lui-même qui est mis en avant, violence, ultra-violence. Donc ça revient vraiment comme une ritournelle qui démontre la centralité de cette notion là, dans cette chanson. Donc c'est intéressant de s'arrêter ici au sens que prend le conflit quand il est dépeint sous les termes de la violence. Donc dépeindre la lutte sous cet angle-là, dans ces deux chansons, elle a comme avantage de forcer le trait de la conflictualité. Le mot violence, il exprime une dimension conflictuelle qui est vraiment évidente, littérale. Il constitue vraiment dans le langage l'indice qui est une rupture de consensus. Il n'y a pas besoin de passer par une interprétation pour se rendre compte que là, dans ces textes-là, on est vraiment dans la construction d'une attitude qui est conflictuelle, dans les deux titres que je viens de vous passer. Vu que mon but c'était de mettre en lien avec la situation sociale, est-ce que vraiment, si on revient au dernier titre cité, on peut toutefois vraiment trouver une pertinence dans le fait de dépeindre la France comme à feu et à sang, comme le fait Camera Silence? Donc est-ce que finalement la violence ici, elle ne peindrait pas plutôt le conflit sur la muraille, mais sans avoir véritablement de lien avec la situation historique? Donc on touche ici à un des aspects de la signification sociale de la violence comme sous-conflit. Et ici, c'est ce que je disais déjà un peu en introduction, donc je vais citer Philippe Brault de nouveau qui dit « Le conflit signifie une relation entre acteurs, la violence est au contraire de l'ordre de la rupture, de la non-relation, du seul rapport de force ». Donc en fait, la violence, c'est cette forme de lutte marquée par l'absence de conflit véritable, l'absence d'échange entre adversaires égaux. Elle est l'usage de la force sans légitimité. Donc la mise en texte de la lutte, comme le font ces deux groupes sous la forme de la violence, elle s'explique, à mon avis, en partie par la situation sociale française de la fin des années 70, du début des années 80, qui elle-même est marquée par ce manque de conflit social. En effet, dans cette période, on assiste en France à ce que Michel Pillonnet et Daniel Tartakovsky nomment une pacification de la vie sociale. Et cette pacification, elle se traduit par un recul, un éparpillement des luttes qui sont de moins en moins centralisées par rapport aux décennies précédentes, aussi par des phénomènes massifs de désyndicalisation. Il y a vraiment un changement dans le rapport de force sur lequel le poids du chômage vraiment est très très fort. Avec voilà, par exemple aussi la baisse du nombre de grèves, tant nombre de grévistes que nombre de grèves unitaires. Et il faut noter que si ma période, j'ai dit que j'ai jusqu'à 85, ben, l'arrivée de Mitterrand au pouvoir en 81, elle ne va pas changer ces dynamiques-là, parce que contrairement à ce qui a pu se passer par exemple pendant le Front populaire, il n'y a pas du tout des mobilisations sociales qui vont être concomitantes de l'arrivée à la présidence de Mitterrand. On a plutôt cet essoufflement de la critique sociale en général. Cette France dénuée de lutte sociale mène les punks à exprimer le conflit sous les traits de la violence pour en exagérer les traits et parce qu'un véritable conflit fait défaut. C'est mon interprétation. Mais est-ce que cet usage de la violence, est-ce qu'il ne pose pas quelques soucis? Est-ce qu'il ne revient pas à accepter la place qui est réservée aux punks dans les médias et dans l'opinion publique? Ne renforce-t-il pas l'association dépréciative entre punk et violence? Justement, si la force est l'usage des moyens jugés légitimes et organisés socialement, au contraire de la violence qui est sauvage et légitime, comme le thématisait l'historien Arnaud Maillère, face à l'État qui est perçu comme rationnel et mesuré dans son usage de la force, le punk, en s'exprimant via des traits violents, se condamne peut-être à apparaître comme une manifestation impulsive, fantasque, voire haineuse. Et c'est toute l'ambiguïté, à mon avis, du texte de Classe criminelle qui à la fois s'approprie la violence mais renforce le préjugé d'une scène punk à l'image de Fury. Mais néanmoins, je vous rassure, je ne vais pas m'arrêter à cette interprétation-là, cette question de l'appropriation, elle ne s'arrête pas du tout au seul aspect de la légitimité politique. La mise en texte de la violence, elle peut aussi s'appliquer à une autre forme de violence vécue que les chansons permettraient d'exprimer, de dénoncer ou de s'approprier. Alors, la figure qui prend vraiment au mot la question de l'appropriation de la violence, c'est le suicide, voilà, c'est vraiment faire sien... faire sienne la violence. Et on a vu, Marie l'a dit dans les fanzines, ce terme du suicide est aussi extrêmement présent. Et dans les textes, aussi un thème récurrent, que ce soit dans Quelle crise baby de Star Shooter de 78, où chaque couplet voilà, parle d'un suicide, de la copine, ensuite du frère, puis ensuite du chanteur lui-même. Mais aussi, ben voilà, on a parlé de Camera Silence, et puis dans Réalité, il y a l'idée. Des noirs dessins, mais aussi un titre qui se nomme lui-même Suicide. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin sur l'interprétation sociale du suicide qui demanderait une expertise que je ne possède pas. Ce qu'il y a d'intéressant sur ces deux titres, les deux premiers titres que j'ai cités, c'est-à-dire Réalité et Quelle crise baby, c'est que s'ils évoquent le suicide ou la souffrance personnelle, ils le font tous deux à travers une mise en parallèle avec la situation sociale large, beaucoup plus large. Le premier évoquant la crise, et puis le deuxième, voilà, la réalité avec son titre. Donc la violence appropriée ou ressentie est donc mise en lien, certes ici de façon plus évocatrice qu'argumentative, avec une violence sociale plus large. Et ceci, ça nous amène à une deuxième façon dont la violence elle apparaît dans les textes punk dans ces années-là. Après la violence invoquée d'un conflit non reconnu, vient la violence ressentie. Car si la société elle a pu se pacifier, comme je disais avant, elle n'en est pas moins marquée par une précarité qui se fait grandissante dès le premier choc pétrolier, ensuite qui va s'intensifier à partir de la fin des 70, avec voilà, 1,6 million de chômeurs en 81, par exemple. Donc la pacification, elle signifie aussi que la critique sociale, elle possède une place de plus en plus restreinte et que les mobilisations, les contestations, elles sont fortement réprimées. Et c'est vraiment bien cette situation qui est évoquée comme violence subie par les punks. On peut revenir à Métal Urbain. Donc dans Paris Maquis, c'est vraiment bel et bien l'État qui assassine. Donc là, je vais aussi vous mettre un extrait.
Inventer la liberté, fiché, traité, maltraité, façonnière, vie, camouflée, solide gardien de l'abri, payé, armé pour nous tuer. Assassine, l'État dans la poche, je te juge, l'État contre moi. Assassine, l'État dans la poche, je te juge, l'État contre moi. Assassine, l'État dans la poche, je te juge, l'État contre moi. Fasciste! Paris maquis quotidien, un jeu truqué où tu perds. Terre en meurtre à chaque instant, trôle d'État assassin.
Voilà, moi comme je respecte rien, même pas Métal Urbain, je coupe. Et donc c'est comme voilà, ce qu'on disait un peu avec la présentation de Philippe Lyotard, il y a cette question de la violence. On voit qu'elle est refusée dans son propre camp, mais elle est attribuée au camp adverse, et ici à l'État, c'est bel et bien l'État qui assassine. Et il y a même voilà, tous ces actes qui sont ici énumérés, fichés, traqués, matraqués. Donc on voit bien ce thème-là. Et on retrouve vraiment le même ordre de dénonciation, évidemment dans plusieurs textes des Berruriers Noirs, comme dans Baston. En effet, si les kids se battent, s'il y a des bastons, c'est parce qu'il y a des prisons, c'est-à-dire un appareil répressif qui est dénoncé comme un système violent. Et donc là, je vais passer la fameuse vidéo.
Hey, est-ce que vous savez qui est le ministre de l'Intérieur ? Un gros connard ! Alors, passons ! Ce morceau, c'est pour Charles Pasqua. Passons. 1, 2, 3, 4.
Donc de nouveau, donc là, donc ici vraiment, les flics bastonnent bien trop dans leur car, dans leur métro, matraquage, serviette mouillée, car tu es basané. Et plus loin, donc là, j'ai pas passé. Quand je vais dans une manif, ils envoient leur CRS comme pour un état de siège. Alors il y en a qui tirent. Donc on voit que de nouveau, la violence, elle se trouve bien cette fois à nouveau du côté de l'État, ce qui est encore plus marqué avec ce live, avec justement l'introduction où voilà, il y a la référence à Pasqua. Donc, suite au caractère illégitime et non revendiqué de la violence, on assiste ainsi à un discours qui refuse le terme de violent et l'attribue à l'État, ou du moins fait de ce dernier la source de la violence provoquant l'entrée en violence de la jeunesse. C'est le cas dans Baston, mais c'est là aussi dans Vive Libre ou Mourir, qui est sorti aussi sur Concerto pour Détraquer, qui est lui sorti sur Concerto pour Détraquer en 85, alors qu'avant c'était Macadam Massacre, où la cause première de la violence est exprimée littéralement. Donc là, je vais juste vous lire les textes. Donc, service militaire, camp disciplinaire, prison psychiatrique, orange mécanique. À l'âge de 20 ans, t'es devenu violent, t'as pris le devant, il y a eu du sang. Ils t'ont envoyé au pénitencier. Au lieu d'écouter, au lieu de t'aider, quand tu sortiras, il n'y aura rien pour toi. Tu recommenceras, car telle est la loi. Donc on voit d'abord que dans ces textes, il y a des causes qui sont énoncées pour ensuite expliquer la violence du jeune. Et le texte ajoute que le système contribue même à entretenir cette violence. Et dans un autre texte des Berruriers, dans Contes cruels de la jeunesse, qui est présent sur le même album, cette dichotomie violence et non-violence, elle est mise en scène entre une manifestation pacifiste et un individu, en gros qu'on pourrait dire comme un vieux con, qui use d'une arme et qui tue un manifestant. C'est vraiment, ça raconte cette histoire. Donc ici, les textes, c'est à marcher dans la capitale sans armes, sans violence et sans haine, à danser comme des malades, un type assis devant la télé, partout qui se dit, partout c'est l'insécurité, encore les jeunes, c'est enculé, et croyez-moi, je vais les mater. Donc on se situe vraiment dans l'extrême opposé de ce qui avait été dit au début de ma présentation, c'est-à-dire que la violence, elle n'est plus du tout appropriée, elle sert toujours à surligner la présence d'un conflit, mais pour l'attribuer, cette violence uniquement à l'adversaire et à la refuser. Donc ici, il y a vraiment le mot « sans violence », tandis que le violent, légitime, le salaud, c'est vraiment l'État, c'est le système en place. Donc cette prise en compte par les Berruriers noirs de l'aspect illégitime de la violence peut s'expliquer par l'attention portée par le groupe aux significations politiques de ces textes, qui s'insère elle-même dans une démarche plus générale militante à travers la publication de tracts ou de dossiers de presse autogérés, mais aussi par l'inscription dans une mouvance militante de la jeunesse, qui voilà, c'est un groupe qui participera évidemment, comme tout le monde le sait, à de nombreux concerts de soutien pour les centres autonomes et pour les chômeurs. Donc on peut comprendre comment il y a justement ce discours voilà, de rejet de la violence qui se met en place. Et pour conclure, donc, à travers cet itinéraire entre différentes paroles de chansons de plusieurs formations punk du milieu des années 80, on a pu voir que la violence, elle constitue vraiment une trame de fond récurrente dans les textes des chansons punk. Alors certaines approches de la scène, elles ont tendance à réduire cet aspect, on l'a entendu également aujourd'hui, à des questions de mode de vie ou à une volonté d'incarner l'air du temps. Et c'est d'ailleurs une interprétation qui a sa légitimité, qui est aussi défendue par des acteurs eux-mêmes de la scène punk, comme Laul de Lucrette Mille, qui dans Nyark Nyark, donc là j'ai cité, dit c'était pas du tout des textes dénonciateurs, on s'appropriait à la violence, on s'appropriait à l'égoïsme, on s'appropriait à la concurrence, on le revendiquait, on le clamait, on le hurlait. Donc pour moi, ce prisme de l'incarnation, du reflet de la société, il est très souvent utilisé dans les approches historiques, mais la présence de cette violence, elle est bel et bien symptomatique d'une époque, donc si la violence elle est présente là-dedans, c'est parce qu'il y a effectivement des phénomènes historiques, l'historien Michel Vivorca, il présente comme une combinaison entre deux processus, c'est-à-dire d'une part la crise du lien social et d'autre part le déficit d'action sociale, une carence d'acteurs et de conflits sociaux. En fait, quand on essaie d'aller un peu plus loin, on voit que ça ne s'arrête pas à cette seule question de l'incarnation ou du reflet, mais que véritablement, la scène punk, elle va travailler cette notion de violence, il y a toute une lutte pour essayer de donner une nouvelle signification, et que voilà, selon les contextes, cette notion de violence, elle peut prendre différentes significations. Cette notion, elle peut servir à forcer le trait, mais pas seulement, elle permet aussi de dénoncer la violence subie, voire à la refuser. Donc presque toujours en lien avec la situation sociale, en prise avec des enjeux sociaux comme la répression, la légitimité, la précarité, la violence prend dans la scène punk un sens politique, dans un objectif de lutte. Donc on voit, que, par rapport à ce que j'ai dit dans l'introduction, qu'elle est véritablement dans cette interaction entre violence d'État, violence protestataire et violence intersociale, ce qui démontre une fois de plus, à mon avis, la capacité du punk à représenter un objet total qui touche de nombreux enjeux sociaux cruciaux. Merci.
Et merci Pierre pour ta communication. Alors nous avons un petit peu de temps pour une question, c'est parti.
En En fait, moi, je regrette juste une petite chose, c'est que c'est très parisianiste pour avoir été ex-parisien, je peux le dire. Mais à l'époque, tu cites les premiers groupes, 76-77, qui ont un contenu et une revendication sociale, politique, il y en a ailleurs qu'à Paris. Il n'y a pas que Métal Urbain, il n'y a pas... Voilà, donc il y a Caméra Silence à Bordeaux, il y a Bye Bye Turbin à Caen, il y a les Olivenstein à Rouen, et il y a les Sub Kids à Dunkerque, dont on n'a pas parlé, mais qui sont tous des fils de métallos d'usine or, et qui, dont le second 45 tours, Boots and Cars, parle des émeutes ouvrières contre le patronat d'usine or à Dunkerque. Donc voilà, il y a sans doute moins l'affiliation, la revendication classe ouvrière qu'en Angleterre, mais elle existe en partie, pour certains groupes, elle est peut-être minoritaire, et elle va plus se retrouver après sur le terrain social des squats, des précaires et des chômeurs. Mais il y a aussi une revendication très forte là-dedans, aussi bien chez Olivenstein que Bye Bye Turbin, c'est une critique du travail salarié. Parce qu'il y a beau y avoir la crise, il y a aussi l'ennui du travail. Je me souviens qu'à cette époque, un certain Joe Strummer de Clash était passé à TF1 avec Mourouzi, et il avait dit « La jeunesse du monde emmerde le travail ».
Ouais, alors tout à fait. Donc oui, je pense qu'il y avait un biais sur le nom. Voilà les groupes que j'ai choisis. Donc on aurait pu dire deux trois mots sur comment je les ai choisis. Mais donc là, je me suis vraiment concentré pas. Donc c'est pas sur la contestation en général, mais vraiment la notion de violence. Donc bon, il y a la violence du travail. Donc effectivement, on aurait pu aussi venir un peu sur cette question-là par rapport à la critique du monde salarié. Effectivement, Bye Bye Turbin, ça aurait été aussi un autre exemple pour le tout début de la scène punk qui utilise ces thèmes-là. Mais en fait, ce que je voulais faire aujourd'hui, même si voilà, en 20 minutes ça fait un peu en gros trait, c'est pas de dire que en 76-77, il y a presque personne qui, y a personne qui dit ça, puis après en 80, tout le monde le dit. Ce que j'ai plutôt voulu dire, c'est que quand même, avant 79, ça reste une minorité dans la scène punk en général, à Paris, mais aussi un petit peu en dehors. Voilà, ce thème de la violence, il n'est pas tant, voilà, il n'est pas dominant, y compris à Rouen ou comme ça. Tandis qu'à partir de 80, ça devient vraiment une thématique centrale, dominante dans les différentes scènes. C'est plutôt ça que je voulais dire. Mais effectivement, on peut trouver des groupes plus tôt, et en 1980, on peut aussi trouver des groupes punk qui parlent pas du tout de ça et qui gardent un truc.
Moi, en fait, ce que tu disais par rapport à la production des Bérus, ça m'a fait penser, je crois que c'est eux, un fanzine avec marqué contre l'État pendant la gueule. Et voilà, ça avait le mérite au moins de la radicalité. Mais ma question, ce serait, cette violence, est-ce que tu aurais pensé à distinguer des moments où la violence, elle est employée au premier degré, ou... De façon, je veux dire, voilà, où est la limite entre violence radicale ou provocation ? Ou dans certains cas, second degré, ça peut être par exemple des fois Métal Urbain, est-ce qu'ils ont vraiment envie de tuer le président ? Ou est-ce qu'ils le font pour réagir ? Ou est-ce que, voilà, ça peut être des différentes manières d'analyser, de séparer ces formes de violence ? Est-ce que tu as pensé à ça dans ta méthodologie de travail ?
Donc là, c'est vraiment quelque chose que j'ai préparé juste pour aujourd'hui avant de creuser. Donc je me suis vraiment concentré sur le fait de dire la violence, le fait de la montrer, de mettre dans les textes. Et après, je n'ai pas été me dire est-ce que... Bon, après, je trouve que c'est de toute façon compliqué de réfléchir. Est-ce que quand on appelle la violence, est-ce que les gens le comprennent comme un appel à comprendre au sens premier, ou est-ce qu'ils comprennent que c'est plutôt une attitude rebelle ? Donc bon, mais ça voilà, c'est des problèmes d'analyse des textes, disons artistiques en général. J'avais travaillé dessus un peu sur Aragon, qui lui était condamné pour des poèmes, voilà, où il appelle à l'assassinat. Est-ce qu'on peut juger un poème ou pas ? Est-ce qu'on peut juger une chanson ou pas comme appel au meurtre ? Ça, c'est une question plus générale. Mais bon, je pense qu'effectivement, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir une réflexion sur ces deux niveaux de la violence dont tu parles. C'est est-ce qu'on peut voir une corrélation entre la présence textuelle et la participation active à des moments de violence physique qui seraient répertoriés, soit avec des articles de presse ou des archives de police, mais un travail que je n'ai pas encore fait actuellement.
J'avais une question, parce que tu as une vision assez politique, en fait, une analyse en tout cas très politique de la violence. Et comme tu as fait un parallèle, en fait, avec le contexte un peu économique et politique, en disant notamment à partir de l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, qu'il y a un peu une dépolitisation générale de la société, que les punks, finalement, ils se réfugient, et, enfin, ils se seraient réfugiés un peu dans ce sens-là. Pour renvoyer à ce que disait Philippe, je crois, tout à l'heure, hein, sur la critique, notamment du travail dans les textes de plein de chansons, est-ce que tu t'es posé, toi, la question en fait, de la politisation des musiciens, enfin, des punks eux-mêmes, c'est-à-dire dans leur trajectoire individuelle, et du coup, quel rapport ils ont eux-mêmes avec leur analyse, enfin leur critique générale de la société, et qu'est-ce qui fait que finalement leur pratique de la musique, enfin le fait eux-mêmes d'être punk n'est pas une incarnation voilà très politique elle-même, et que en gros eux c'est leur voie de politisation. Être punk, c'est pour eux un agir politique qui serait une nouveauté, enfin entre guillemets, tu vois, ce qui ne pouvait pas exister avant, et voilà, c'est une autre voie qui s'ouvre à cette époque-là. tu fronces les sourcils.
J'ai pas totalement sûr d'avoir compris la question.
Je peux essayer de la formuler, mais si ça t'inspire. Voilà, l'ancrage politique dans les carrières individuelles des acteurs, est-ce que tu peux
m'intéresser là-dessus ? Mais par ancrage politique, t'entends quoi ?
Bah, posture politique.
Posture politique, enfin voilà, parce que, en fait, je reviens au début de ma question. T'as une analyse très politique, en fait, de la violence. T'es beaucoup intéressé à la critique de l'État, etc. Plutôt la violence, finalement, physique. Et en même temps, la politisation des textes très politiques, notamment la critique du travail. Et du coup, je me suis demandé, est-ce que tu t'es intéressé à comment les musiciens eux-mêmes se politisent dans leur... Enfin, voilà, quelle critique de la société ils...
Donc, au-delà des chansons, au-delà des productions, est-ce que c'est l'engagement politique extra-musical dont tu parles, ou est-ce que c'est l'être punk comme simplement une posture politique de base?
Bah, les deux choses. Les deux vont en même temps, en fait. Ouais. C'est-à-dire, une fois qu'ils sont...
Donc,
les textes peuvent refléter un engagement, une vision, enfin, tu vois, un quotidien aussi.
Donc, moi, effectivement, je pense que le punk en tant que tel, c'est effectivement une forme d'agir politique, comme tu dis, qui marque une rupture, d'un certain sens. Mais à mon avis, justement, cette rupture-là, elle est extrêmement hétérogène au début, surtout au début du punk, donc elle peut être uniquement sur des questions que mentionnait Adeline, c'est-à-dire comment le simple fait voilà, tout au coup de faire ce type de musique-là, on est en rupture face à ce qui nous est proposé culturellement à écouter, mais après ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus social, mais qui reste aussi dans la rupture littérale et symbolique. Et puis, moi le terme de politique, je l'entends aussi comme quelque chose qui n'est pas... d'uniforme, mais qui est aussi quelque chose de l'augmentation de la conflictualité. La politisation, j'entends plutôt comme ça, c'est-à-dire qu'une conflictualité qui augmente et la prise en compte de thématiques concrètes comme ce que tu appelles toi très politique, c'est-à-dire la question du travail, la question de l'État, ça, pour moi, ça montre une politisation différente de la scène, donc qu'à ce niveau-là, s'observe, mais pas dans toutes les scènes, et surtout à partir, à mon avis, de 1980, donc ce qui fait vraiment un lien avec la situation sociale. Je suis pas sûr d'avoir totalement répondu, mais...
Et on remercie Pierre pour sa communication.